Corps et Cortex, le podcast de la préparation mentale.
À Aix-les-Bains, quand on parle de boxe anglaise, c'est son nom qui revient avec insistance. Un boxeur au style orthodoxe, compact, explosif, qui incarne à la fois la discipline, l'ambition et une certaine idée de la réussite assumée. Du haut de ses 1m73, évoluant autour des 67, soit 68 kg chez les Walter, il impose un profil athlétique, dense, solide sur ses appuis, capable d'alterner pression et précision. Mais derrière les gants, il y a un parcours, un chemin qui ne s'est pas toujours dessiné en ligne droite. Originaire d'Argenteuil, il découvre la boxe comme on découvre une structure salvatrice. Ancien militaire, il trouve sur le ring un cadre aussi exigeant que formateur. La boxe devient rapidement plus qu'un sport, une discipline de vie, une école du mental, un révélateur de caractère. Il débute en amateur en 2018. Une trentaine de combats, des défaites, des victoires, mais surtout de l'expérience. Il apprend vite, il encaisse, il progresse, il comprend. Et surtout, il refuse des excuses. Se trouver des raisons pour ne pas faire les choses, très peu pour lui. Il avance, toujours. En 2024, par base professionnelle, un cap, une décision mûrement réfléchie. Le monde pro, c'est une autre intensité, une autre pression. Mais c'est exactement ce qu'il recherche. Les galas s'enchaînent, les combats aussi, des victoires marquantes, des chaos qui affirment son punch, des décisions au point qui prouvent sa gestion tactique. Sur le ring, il aime les choses directes, pas de faux-semblants, pas de non-dits. Il avance, il frappe, il assume. Ce qu'il est dans la vie, il l'est aussi dans les cordes. Frontal, déterminé, fier. Fier de son parcours? Oui, et il a de quoi l'être. Parti de loin, il s'est construit seul, à force de travail. Il revendique son ambition. Il aime les belles choses, les voitures, les maisons, les symboles visibles de la réussite. Un côté assumé, un peu matérialiste, mais profondément ancré dans l'idée que tout se gagne. En dehors du ring, l'homme est aussi un homme entouré. Fiancé depuis un an, il s'apprête à franchir un nouveau cap le 9 mai prochain, date de son mariage. Sa future épouse partage sa passion. Elle est, elle aussi, boxeuse. Une union placée sous le signe du sport, de l'engagement et du dépassement de soi. Il aime le collectif. Supporter du PSG, il suit son club avec passion. Il aime faire la fête avec ses amis, profiter des moments simples. Et s'il y a un moment sacré dans l'année, c'est Noël. Bien manger, boire du bon vin, partager autour du grand table. Parce que derrière le combattant, il y a l'épicurien. Mais, ne vous y trompez pas. Le plaisir n'efface jamais l'exigence. L'animal déteste la complaisance. Il n'accepte ni le retard, ni les demi-mesures, ni les excuses faciles. Pour lui, si quelque chose doit être fait, on le fait. Point. Aujourd'hui, il incarne une figure sportive forte à Aix-les-Bains. Un ambassadeur d'une génération qui ne s'excuse pas de vouloir réussir. Un boxeur qui assume son ambition, fierté. Son goût pour la réussite visible. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi le combat, sur le ring, dans la vie et bientôt en couple. Un homme qui avance, sans détour, sans masque, direct, toujours. Vous l'aurez compris, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à ce micro, Jimmy Lalin. Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Alors Jimmy, dis-moi, tu peux nous dire où on est aujourd'hui, actuellement là ?
Là on est dans ma deuxième maison, on est au club, donc du coup France Boxe Aix-les-Bains.
Et dis-moi, donc on est dans ton club, et tu t'entraînes combien de fois par semaine, sachant que ton prochain combat c'est le 14 mars, je crois, c'est ça ?
C'est ça, 14 mars, oui.
Donc tu t'entraînes combien de fois ici, dans cette salle, et qui fais-tu ?
Dans cette salle, je m'entraîne 4 fois par semaine, donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, et après je m'entraîne ailleurs avec mon préparateur physique, puis le samedi sur la piste à Aix-les-Bains, et puis le dimanche, repos.
D'accord. Six fois par semaine, donc, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais c'est encore même pas assez pour le niveau professionnel. J'arrive à m'en sortir quand même parce que je gère assez bien les entraînements, je suis assez bien entouré, mais il faudrait s'entraîner même 2 fois par jour pour être sûr d'avoir le niveau, en tout cas un niveau européen, un niveau que je recherche.
Et du coup, donc tu t'entraînes 6 fois par semaine, ça fait combien d'heures ? Tu as compté les heures ?
Ouais, ça fait entre 12 et 15 heures, suivant l'intensité que je mets, suivant le volume surtout par jour.
Sachant que tu as un travail à côté.
C'est ça, voilà.
Tu fais quoi à côté ?
À côté, du coup, là je suis dans les services généraux. Je travaille dans les services généraux pour une maison de luxe à Genève depuis depuis quelques années. Où j'ai commencé en sécurité avant, et puis après j'ai grimpé un peu les échelons, on va dire, au fur et à mesure, pour faire ma place, et puis maintenant je suis dans cette maison.
Du coup, ça représente quelle quantité de travail par jour? C'est-à-dire, tu te lèves à quelle heure, tu te couches à quelle heure, et entre ces deux horaires, tu fais quoi?
Ok, du coup, donc le matin concrètement, donc habitant à Aix-les-Bains, du coup je suis frontalier, comme je disais plus tôt, je travaille en Suisse. Je me lève, il est 5h30, 5h45. Donc petit déjeuner, un truc bien millimétré, fait par ma nutritionniste, Cécile Giornelli, qui est bien connue dans le monde des combattants. Ensuite, je prends la route vers 6h30, 6h40, par là, direction Genève. Je commence à 8h et je finis le boulot vers 5h, par là. Je prends la route et j'arrive ici à Aix-les-Bains, il est vers 6h30, on va dire, et je commence l'entraînement jusqu'à 8h30, 8h45, ça dépend, tous les jours.
Ok. La boxe a vraiment cette image d'un sport vraiment spartiate. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on l'a entendu dans les micros, mais on a un train qui vient de passer parce qu'on se trouve dans une salle de boxe qui se trouve juste à côté d'une voie ferrée. C'est pas le luxe, c'est super, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le luxe. Est-ce que vraiment dans ce sport qu'est la boxe, il faut absolument un tel environnement?
Alors, pas forcément. À l'ancienne école, alors mon coach et manager, donc Philippe Fontanelle, qui est gérant du club et coach principal, pardon. C'est un ancien, il a 63 ans, donc on va dire, et il aime bien l'ancienne école. Donc ça, c'est un peu typique à la Rocky, on va dire, qu'on connaît tous. Et on n'a pas forcément que des salles, on va dire, vieilles comme ça. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, la salle, pardon, a une âme. On sent, ça respire la boxe. Pourtant, c'est un ancien garage ici. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Avant, on était au bâtiment Le Bernascon, avant qu'il prenne feu, il y a une dizaine d'années. Mais voilà, c'est rustre, mais comme le veut ce sport, en fait. C'est un sport qui est ancien, où on se met des coups dans la figure et dans le corps, et on attend de voir lequel restera debout. Donc, c'est un peu comme les gladiateurs, pardon, à l'ancienne, mais pour les temps modernes.
Tu penses que si tu avais l'occasion de t'entraîner dans une salle hyper moderne, dans une salle, je sais pas, attenante au casino, avec des super luminaires, du matériel tout neuf, tu penses que tes performances en seraient différentes?
Non, je pense pas que ce soit l'endroit où on se trouve qui change, et surtout l'entourage. On peut mettre n'importe qui, mais on peut se trouver n'importe où, mais s'il n'y a pas l'entourage qui convient, avec un bon coach, des bons sparring partners, une bonne nutritionniste, un bon préparateur mental, bref, j'en passe, il n'y a rien qui va aller. C'est vraiment c'est plus important d'avoir un bon entourage.
D'accord. Justement, ton entourage, on a dit que tu allais te marier d'ici pas très longtemps, tu as ton entraîneur principal. Quel rôle jouent justement ces personnes autour de toi? Comment ta compagne arrive à gérer ta carrière professionnelle? Quel est le rôle de ton entraîneur? Tu nous as parlé de ta nutritionniste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent un petit peu autour de la sphère Jimmy Lalin, pardon?
Ouais, en fait, du coup, ma compagne, donc ma future épouse, elle a un rôle principal, on va dire, parce que c'est elle qui l'a depuis le début. Elle m'a connu en amateur, j'avais 3-4 combats à l'époque. On s'est connu quand je faisais mon quatrième combat en 2021. Et là, elle me suit encore à mon bientôt 9e combat professionnel. Et pour vous dire, c'est même elle qui me fait les bandages. En fait, on a des bandages professionnels sur les mains. Et c'est elle qui s'est formée toute seule là-dedans. Enfin, on s'est formé à deux, quoi. En regardant des vidéos YouTube, on s'est débrouillé. Et elle me fait des bandages que même ceux qui sont formés avec des vrais diplômes, ils font vraiment moins bien. Et on en a vu dans des combats, on se demande même comment ils ont pu avoir leur diplôme. Mais voilà, donc même mon coach fait moins bien les bandages qu'elle, pour vous dire. Mon coach ensuite, qui gravite autour, qui m'a surtout appris, on va dire, au début, dans les débuts. Et après, je me suis, on va dire, un peu débrouillé seul. C'est-à-dire que je suis allé à droite à gauche, dans différents clubs, soit à Lyon, à Grenoble, au Portugal, à Londres, en Angleterre. J'ai fait vraiment le tour des clubs, à Annemasse à l'époque. J'ai vraiment fait le tour des clubs pour en fait prendre plein d'expériences différentes. J'ai aussi oublié de citer l'Oise, l'OBCOP, où j'ai fait un stage avec des champions là-bas, avec Giovanni Boggia, qui se reconnaîtra et qui m'a appris beaucoup en une seule semaine. J'ai appris pour des années de boxe, je pense, avec lui. Il y a des gens comme ça qui gravitent autour. Donc mon coach, il a plus un rôle de manager, on va dire, pour gérer ma carrière, trouver les adversaires, trouver les combats, me faire monter, obtenir pourquoi pas des titres futurs, qu'un rôle de coach actuellement.
Un manager pour la boxe, c'est un personnage qui a l'air important. On entend toujours parler du manager. On a notamment entendu parler des frères Acariès il y a encore quelques années. Il est là pour quoi? Quand toi, tu débutes ta carrière professionnelle, ton manager, il est là pour quoi? Donc, tu l'as dit, pour te trouver des combats. Mais après, comment ça se gère?
Le manager, en fait, il est là pour étudier le risque, parce qu'il y a toujours un risque quand on fait un combat. On essaye de jauger un peu le risque selon, on va pas aller se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, affronter un adversaire qui va nous mettre KO ou qui a une trop grande expérience. Le manager, il est là pour jauger ça, en fait. Il est là pour faire des choix par rapport à comment monter dans la carrière, monter dans le classement national et mondial. Comment, en fait, on a un plan de carrière, on a un objectif. Telle année, on veut devenir champion. Ok, bah on fait quoi? On fait tant de combats. Hop, on affronte tel ou tel adversaire. Un peu plus faible sur le papier, un peu plus fort, un peu plus faible. On jauge, en fait. Comme à... Moi, j'aime bien comparer ça à un avocat qui fait sa carrière. Il commence au début, il prend des petits dossiers. On ne mettra pas face à une défense de fou furieux à faire au niveau mondial. Il ne sera pas exposé. On le fait monter tranquillement, et puis une fois qu'il a atteint un bon niveau, et ben là, il peut prendre un gros dossier et être prêt à avoir les armes qui sont bien aiguisées à force pour préparer, pour défendre un gros gros dossier. Et ben en boxe, c'est pareil. On se prépare à prendre un gros client au fur et à mesure.
Donc toi, tu dois avoir toute confiance en ton manager.
Ah oui, j'ai 100% confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est la rupture, ça ne sert à rien, en fait. Parce qu'on met entre guillemets, même pas entre guillemets, on met notre vie entre ses mains, clairement. Là, on peut parler de vie entre ses mains parce que c'est un sport où on met notre vie en jeu. Dès qu'on est à l'entraînement, on prend des coups. Quand on a un combat, on prend des coups qui peuvent être. Un coup peut être fatal. Un coup peut vraiment être fatal parce que c'est des petits gants, des bandages durs, donc des bandages professionnels autour des mains. Un coup peut vraiment être fatal. Donc, on met notre vie entre ses mains. Donc, il faut avoir confiance.
Justement, c'est là où je voulais commencer cette entrevue. Tu parles du risque. C'est-à-dire, toi, tu as commencé la boxe à quel âge environ?
J'ai commencé la boxe en 2018. Donc, ça fait 8 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans. J'avais 22 ans.
Très tard. T'as commencé vraiment sur le tard.
J'ai commencé à l'âge où certains deviennent passe-pro, en fait.
D'accord. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que généralement, quand il s'agit de gamins, t'as pas cette notion du risque. Tu vois un match de boxe à la télé, t'as envie de faire pareil, tu vas sur le boxe ou tu regardes Rocky, t'as envie d'aller sur le ring. Mais à 22 ans, tu as déjà conscience de ce risque. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à prendre ce risque de faire ce sport?
Ce qui m'a poussé à prendre ce risque, en fait, j'ai toujours aimé le goût du risque, en fait, on va dire. Parce que je me suis engagé dans l'armée de terre quand il y a eu les attentats du Bataclan en 2015. On est parti un an après, on est parti en mission en Côte d'Ivoire, puis projeté au Mali quelques temps. J'ai toujours aimé le risque, en fait, de vraiment être dans un environnement où on n'est pas sûr de sortir indemne. Donc c'est peut-être un peu sado, je sais pas, mais je sais pas s'il y a un côté sado là-dedans. Mais j'aime bien, en fait, parce qu'en fait, on doit se dépasser dans ce risque et pour braver ce risque et sortir indemne, souvent pour le coup. Et la boxe, je suis arrivé dans ce sport parce qu'on est seul face à nos responsabilités. On est en groupe, oui, il y a le coach, le manager coach, il y a les supporters, tout ça, mais dans le ring, on est seul. Le coach, il a beau donner des conseils et tout ça, on peut écouter ou pas. Dans le ring, on est seul. Il y a nous, face à l'adversaire, on est face à nous-mêmes, en fait, face à tous nos vieux démons, et on doit se battre avec ça pour pouvoir sortir vainqueur ou pas, en tout cas, mais donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça qui me plaît dans ce sport. Pour ça que, d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais avant, j'ai commencé tard en ayant conscience du risque parce qu'il y avait cette notion de risque que j'aimais.
D'accord. Justement, toi, tu parlais de vieux démons. Justement, quels sont ces vieux démons qui te font encore monter sur le ring?
On va dire c'est un dépassement mental, de me prouver à moi-même que je peux faire quelque chose de bien, d'y arriver sans forcément être entouré de quelqu'un, enfin sans que ce soit quelqu'un qui le fasse pour moi, par exemple, d'avoir un bon physique, de montrer que je suis capable de faire de grandes choses par moi-même, on va dire. C'est peut-être lié à un passé familial un peu dur. Ça, c'est ça qui me motive, mais plus trop maintenant. Maintenant, c'est plus vraiment l'aspect de faire carrière, et ça va donner des valeurs à la boxe. La discipline, la confiance en soi, le respect de l'autre, l'humilité. L'humilité. En boxe, il faut être humble, sinon on change de sport.
D'accord. Parce que, d'après ce que tu me dis, en fait, il y a eu deux grosses étapes. Que tu te mettes à la boxe amateur à 22 ans, je dirais ok. Tu es casqué, tu as des gants plus gros, plus mous, je crois. Et après, tu as le stade professionnel, c'est-à-dire que là, tu as des bandages plus serrés, des gants plus fins et tu n'as plus de casque. Donc voilà, est-ce que le passage vraiment de amateur à pro, tu y as réfléchi vraiment longtemps avant et tu t'es dit, est-ce que j'y vais finalement? Est-ce que c'est la bonne solution? Ou est-ce que tu t'es posé cette ribambelle de questions, en fait? Est-ce que tu t'es torturé l'esprit longtemps?
Ouais, alors en fait, en amateur, on a le casque jusqu'à, une fois qu'on a 18 ans, pardon, en France en tout cas, on a le casque jusqu'à entre 5 et 10 combats. Passé les 10 combats, on passe à des gants on va dire ouais, presque la même taille de gants qu'avant. Et on retire le casque par contre. On retire le casque et on passe non plus en 3 fois 2 minutes, mais en 3 fois 3 minutes. Ça au niveau élite, quand on fait les championnats de France, enfin les championnats régionaux, les championnats de France. Et donc j'ai combattu sans casque, en gros on va dire 25 combats sans casque avant le passé pro. Et en fait j'avais un objectif, je me dis bah quitte à faire de la boxe maintenant, autant passer pro en fait. Autant réunir tous les critères, remplir tous les critères, cocher les cases pour passer pro. Et voilà, en pensant à faire une carrière, bon, j'ai rêvé, hein, un peu comme tous les boxeurs. Je me suis dit, pourquoi pas être champion du monde? Après, je me suis dit, non, on va rester lucide, j'ai commencé tard, je suis déjà un peu vieux pour ce sport, on va dire. Je suis pas vieux, hein, mais bon, pour ce sport, en tout cas, en ayant commencé tard. J'ai mon métier à côté, dans lequel je montais au fur et à mesure. J'ai ma vie de couple. Donc, je me suis dit, si, je vais passer pro. Par contre, je vais un peu arrêter de rêver. J'ai priorisé mon métier que j'ai à côté, parce que c'est ça qui me donne, qui me ramène le pain sur la table. Hein. Et puis surtout, c'est un métier que je fais avec passion. J'aime mon métier pour le coup, j'ai de la chance d'aimer les deux en fait. J'aime mon métier et mon deuxième métier. La boxe est mon métier principal. Et voilà, donc je suis resté lucide là-dessus, mais en voulant passer pro. Je voulais quand même faire ce combat pro au début. Et en fait, au début, je voulais en faire qu'un. Enfin, passer pro, faire un combat pro et puis voir après. Et là, j'en suis à mon neuvième presque en fait. Donc après.
Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à continuer?
C'est le fait de, pareil, de me dépasser encore en fait, de me dépasser, de monter, de pourquoi pas avoir un titre. Au début, je voulais juste réussir à passer pro. J'ai réussi. Maintenant, je fais quoi? L'objectif, on le pousse plus loin. Il y a un but à la fin. Là, c'est de devenir champion d'Europe. Donc, il y a des étapes. Il faut monter dans le classement, devenir champion de France. Et en fait, une fois que je me suis mis en mode, j'ai quelque chose à faire. J'ai des étapes à franchir. Je vais droit au but. Je vais pas dire ah non, là, j'arrête là parce que non. Bon, sauf s'il y a des problèmes de santé, forcément, c'est pour ça que je dis que je suis très lucide là-dessus. Je fais des tests, je fais un IRM obligatoire tous les ans, des tests cardiaques. Et je fais un deuxième IRM, même une deuxième fois dans l'année, qui est ça complémentaire, mais c'est moi qui le fais pour être sûr que tout va bien. Et s'il y a le moindre pépin un jour, j'arrêterai direct. La décision est déjà prise en fait. Je ne me poserai pas la question au moment opportun, au moment voulu, enfin au moment soudain. Je sais que j'arrêterai sans me poser de questions.
Ok. Ouais. Tu te souviens de ton premier combat à la fois amateur et professionnel et dans quel état d'esprit tu étais avant de monter sur le ring, avant de passer entre les cordes là, qu'est-ce que tu avais en toi?
Alors je me souviens et c'était au même endroit pour le coup, c'était au Casino Grand Cercle. Il y en avait un, c'était en mars 2019 et l'autre c'était en mars 2024. En mars 2019, j'étais stressé, tétanisé, il y a une estrade, il y a un grand rideau rouge et puis là on arrive, hop, il y a 1000 personnes qui nous acclament ou pas. Mais en tout cas avec Sleban on est quand même chez nous donc ils nous acclament. Et là je me dis, va falloir maintenant faire le boulot quoi, ils sont là pour moi, je me suis avancé, j'ai dit à tous mes potes de venir, ma famille tout. Donc j'ai vraiment fait venir du monde. Et j'ai perdu mais surtout de manière lamentable, c'est-à-dire que je me suis fait rooster pendant 3 fois 2 minutes. Et même au premier round j'ai dit à mon coach arrête le combat, je voulais plus continuer. J'en avais marre de ce sport, c'est bon, je suis sorti en pleurant, je suis parti au vestiaire et j'avais honte. J'avais vraiment honte d'avoir montré cette image de moi à ma famille, etc. Et je voulais pas affronter les choses en face, aller voir les gens.
T'es allé au bout du combat?
Je suis allé au bout du combat, ouais. Okay. C'est vrai que j'ai pas dit, mais du coup, on a terminé le combat, j'ai perdu au point. Et puis voilà, et après, en pro, par contre, là, j'étais sûr de moi. Pareil, stressé aussi, mais en fait, j'avais réussi à gérer ce stress, parce qu'avec les combats amateurs avant, puis entre temps j'ai vu un préparateur mental aussi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à passer le cap amateur à pro en fait. Et puis du coup là j'ai remporté mon combat par KO, donc ça, en fait KO 3ème round sur 4, au début c'est 4 rounds en pro, après on passe à 6, là je suis à 6 pour le coup. Et voilà, donc l'état d'esprit n'était pas le même et le résultat du coup n'était pas le même pour le coup.
Et du coup qu'est-ce qui t'a fait continuer après ton premier combat donc amateur? Entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé entre temps?
Et ben en fait au premier combat amateur, j'étais encore on va dire mitigé entre la boxe et la fête. Je faisais beaucoup la fête, je fumais, je buvais beaucoup, enfin en soirée quoi. J'étais pas alcoolique, voilà, mais je buvais beaucoup. Et vu que j'étais tout le temps en soirée, je buvais tout le temps forcément. 2 semaines avant le combat, j'avais pris une cuite comme on dit dans le jargon et je m'étais battu, je me battais souvent en dehors malheureusement, je m'étais cassé la main même, là on voit encore les traces sur mes mains ici là, sur la main droite, je m'étais cassé la main et j'ai fait le combat, je me rappelle la veille, il y a une photo dans le club par là où j'ai la main dans le dos en fait et j'ai un plâtre encore, la veille du combat et le chirurgien m'a retiré le plâtre le matin même, il m'a dit écoute, moi je te conseille pas de combattre mais bon tu fais ce que tu veux, t'es grand, voilà, je fais je vais le faire quand même parce que en fait j'avais un honneur, j'avais dit à tout le monde de venir. et par fierté, donc peut-être mal placée, parce que là j'ai fait le combat sans avoir ma droite, qui était mon point fort pour le coup. Mais voilà, c'était mon choix. Après, c'est pas une excuse pour dire ouais, j'étais blessé, je l'ai fait quand même. Non, non, j'aurais pu ne pas le faire. Et puis voilà, ce qui m'a fait continuer, en fait, c'est le fait de me dire maintenant, je vais voir la différence entre si j'arrête la boisson alcoolisée, j'arrête la cigarette, j'arrête la fête, je fais un truc vraiment au niveau une préparation optimale, et je vais voir ce que ça donne. Et là, j'ai fait le combat 2 mois, 3 mois après. Non, plus. Combattu en mars, j'ai combattu en novembre. En novembre, ouais, fin octobre, début novembre, à Albertville. Et là, j'ai remporté mon combat. J'ai gagné mon combat, j'ai gagné tous les rounds. Et donc là, je me suis dit, ouais, il y a une différence. Il y a une différence entre quand je me mets le Jimmy qui se met, on ne sait pas trop, un pied là et un pied dans la fête, et le Jimmy qui se met à fond, en fait.
Du coup, le premier combat, c'était presque... Enfin, il y a un mot qui m'est venu, c'est suicide.
Ouais.
Genre, tu t'es mis carrément en danger.
Ouais,
quoi.
Je suis allé au combat, en fait, en tirant une balle dans le pied. Là, l'expression prend tout son sens pour le coup, parce qu'une balle dans la main pour le coup.
Dingue, quoi. Genre, pas préparé, et en face de toi, t'as un combattant qui, tu sais pas s'il se prépare comme toi, c'est-à-dire mal, ou s'il s'est préparé comme un pro, quoi.
C'est ça, c'est clair. Non, je suis allé, en fait, j'ai pas respecté le sport en faisant ça. Et là, je fais que de le dire aux jeunes qui veulent boxer, enfin jeunes dans la boxe en tout cas, qui ont même 23-24 ans, qui veulent boxer, ils ont hâte de faire leur combat. Je leur dis, les gars, la boxe, c'est pas un sport où on rigole. On se prend des coups dans la tête à chaque coup, on perd des points de vie pour la suite. On a des risques de déclencher des maladies dégénératives. Je le dis clairement. Je dis, plus tard, si j'ai un enfant, je lui conseillerais pas de faire la boxe. S'il veut en faire parce qu'il me voit aller au club ou quoi, il en fera, bien sûr. Voilà. Mais je le pousserai jamais à faire de la boxe, parce que c'est un sport dur. C'est réputé d'ailleurs comme le sport le plus dur au monde, avec d'autres sports, mais en tout cas, c'est voté par ESPN à chaque fois depuis quelques années. Et voilà, donc c'est un sport vraiment. Très 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 dur, où il faut se mettre à 100%, sinon ça sert de le faire, en fait. Et justement, j'étais pas à 100% pour le coup ce jour-là.
Justement, d'après toi, qu'est-ce qui pousse un jeune aujourd'hui, je sais pas, 12, 13, 14, 15 ans, à faire de la boxe plutôt que, je sais pas, du football ou je ne sais quoi d'autre?
Je pense que la boxe, chacun a une histoire quand il vient dans ce sport. Qu'il le sache ou non, ou en tout cas pas encore, ou il le saura peut-être plus tard, mais il a forcément une raison qui l'a poussé à aller dans la boxe. Soit dans son enfance, soit dans son entourage, soit dans sa façon de voir le monde, il y a forcément une raison. Parce que déjà, c'est un sport individuel. Donc entre faire un sport individuel, et un sport collectif, il y a une différence. Faire un sport où on se prend des coups dans la tronche, il y a une très grosse différence. Parce que beaucoup ont un très bon cardio, ont une très bonne condition physique, mais peu de gens sont prêts à se prendre des coups de manière légale et de manière voulue, en disant non, je vais prendre des coups, je vais en mettre aussi, mais je vais en prendre. Et ça, il faut vraiment passer un cap dans sa vie. Donc je pense, ouais, quelles raisons, je ne sais pas, mais ça peut être des raisons surtout mentales, je pense. Mais je pense qu'il faut surtout avoir un pète au casque pour faire ce sport, malheureusement. Pour ça qu'il y a beaucoup, ceux qui ont réussi dans ce sport, malheureusement, ont beaucoup de problèmes familiaux, par exemple. On regarde des gens comme Mike Tyson, on regarde des gens comme Conor McGregor, bon, lui dans l'MMA, à l'inverse. Voilà, c'est des gens qui ont des problèmes d'argent, problèmes d'entourage et plein de problèmes comme ça. Ils se réfugient dans ce sport, en fait.
Alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as cité Tyson ou d'autres. Les cas contraires sont... Il y en a.
Bien
Oscar
sûr.
De La Hoya, par exemple.
Bien sûr.
Il venait d'un milieu privilégié. Il a réussi. C'est un des boxeurs les plus talentueux qui soient. Donc, comment est-ce que toi, tu arriverais à expliquer que tu es né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, et je ne parle pas de toi, mais Oscar de La Hoya, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui pousse un gars comme ça à se dire, tiens, moi, je vais m'en prendre plein la gueule et je vais monter sur un ring?
Et ben moi, j'ai encore plus de respect pour les gens, justement, comme ça. Comme certains critiquent Jake Paul en ce moment, parce qu'il fait de la boxe alors qu'il est multimillionnaire déjà, youtubeur et compagnie. Je dis, ouais, mais justement, même pour rebondir sur Oscar de La Hoya, je dis, ces mecs-là, ils ont déjà tout, et ils veulent faire un sport que les pauvres font, parce que c'est un sport de pauvres, la boxe. Pour se prouver à eux-mêmes, en fait, qu'ils peuvent, je pense, réussir tout seuls et faire un truc de fou. Ils veulent faire un truc, en fait, comme ceux qui n'ont pas le choix, et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire ça. Et donc, j'en fais, je me dis respect, parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire, c'est pas pour l'argent, ils ont déjà l'argent, ils le font quand même. Parce que je me dis, non, respect, franchement, ouais.
Chapeau. Ceci dit, on peut en revenir à toi aussi, c'est-à-dire que tu travailles, t'as un bon job en Suisse, je t'ai vu arriver, t'as une jolie voiture. T'as pas besoin de la boxe.
Non,
il y a des boxeurs qui sont des crèves la dalle, qui ont besoin de leur prime pour gagner leur vie.
Bien sûr.
Mais toi, t'as pas ça.
Non, c'est clair. C'est pour ça que certains ne comprennent pas encore pourquoi je continue la boxe ou quoi. Je pense qu'ils me le disent pas, mais ils le pensent. Ils doivent dire, mais il gagne bien sa vie en Suisse, il va se marier, il est bien dans la vie, il continue ce sport. Parce que moi, j'ai pas encore fini. En fait, j'ai commencé un chemin et je vais au bout de la mission. J'ai été éduqué comme ça et j'ai suivi le chemin de l'armée comme ça. J'ai fait que 3 ans. Hein. Enfin, même pas 3 ans parce que je suis parti avant pour d'autres raisons personnelles, on va dire, niveau familial. Et Et en fait, j'ai une mission, je dois aller au bout de la mission. Peu importe ce qu'il arrive entre-temps. Entre-temps, bah, c'est le boulot en Suisse, c'est réussir un peu, monter en carrière. Mais c'est pas grave, la mission, elle n'est pas terminée. Et quand la mission sera terminée, quand j'aurai le titre de champion d'Europe, là, j'arrêterai.
Et du coup, qu'est-ce qui va t'amener petit à petit à ce titre de champion d'Europe? Donc, ton prochain match, tu m'as dit, c'est le 14 mars.
C'est ça.
Là, c'est quoi? C'est quel niveau? National
Ouais, c'est niveau national. J'affronte un Français. Là, j'ai affronté déjà trois Français, donc, dont un que personne ne voulait affronter, que 26 adversaires ont refusé. Ça, je l'ai su après. C'était à Paris, pour le coup, à l'Adidas Arena. C'était mon plus gros combat, en tout cas, jusqu'à présent. Et en fait, c'est des combats comme ça. En fait, on fait tous les combats qu'on fait, que ce soit contre un étranger. J'ai affronté des Moldaves, Géorgiens, Serbes. En fait, on monte dans le classement national et mondial. Et en affrontant les Français, on marque des points pour être challenger au titre. Il faut un nombre de combats, un nombre de Français affrontés et un nombre de victoires consécutives sans défaite dans le palmarès pour être devenir challenger au titre. Là, je suis classé 15e sur 46 pour la course au titre, en tout cas. Et donc voilà, au fur et à mesure, le but, c'est de monter tranquillement.
Tu peux, donc ton prochain combat c'est le 14, tu peux nous raconter comment va se passer cette journée du 14 d'après tes expériences des différents combats passés? Comment se passe ta journée en fait du 14? Tu te réveilles à quelle heure? Tu fais quoi avant le combat? Et tu fais quoi éventuellement après le combat suivant si c'est victoire ou défaite?
Alors, je me lève sans réveil pour le coup. Je me couche la veille, il est 23h, minuit par là, suivant comment j'ai bien récupéré de la perte de poids et de la reprise de poids, du rebond. Ouais, 23h maximum, on va dire. En tout cas, je vais dans le lit vers 22h30, 23h. Je me lève sans réveil. Je consulte mes données avec mon bracelet Whoop pour voir si j'ai bien récupéré ou pas.
Sachant que le combat est à quelle heure à peu près?
Le combat, il est là, je vais combattre vers 22h. Ouais, en général, avec Stéban, je combats à minuit. En général.
Ah ouais, c'est très tard.
Mais là, j'ai voulu combattre en premier et non pas en main event, en combat principal. J'ai laissé la place à mon collègue, un pote à moi qui boxe pour le coup ce soir-là aussi, Stan Molmont. Il fera son 10e combat pro en mi-lourd. Moins de 79 kilos. Je vais laisser la place en combat principal. Je préfère combattre plus tôt. Parce que moi, d'habitude, je me couche, il est 22h, 22h30 en fait. Donc, si je commence à combattre à minuit, je ne suis pas préparé à ça. Parce que j'ai mon boulot à côté et tout ça. Je peux pas commencer à habituer mon corps à me coucher à minuit ou une heure. Je devrais le faire normalement si je combats à cette heure-là. Mais là, non. Là, je vais commencer à habituer mon corps à me coucher à 23h, 23h30 pour que mon corps soit encore réveillé vers 21h30, 22h quand je vais commencer l'échauffement. Du coup, pour revenir à la journée du fight. Donc je me lève sans réveil, je fais un petit déj, un bon petit déj, pareil, tout est millimétré, hein, tout est millimétré par ma nutritionniste. J'ai un plan nutritionnel à suivre, mais je me fais quand même plaisir, on va dire, mais sans manger des trucs trop gras, trop sucrés ou quoi, ça je le garde pour après le combat. À midi, je mange des plats, enfin je mange un plat, protéines, glucides à fond, voilà, faire une recharge. Je m'hydrate beaucoup. J'écoute de la musique, je vois des proches s'il faut. Je suis en ville pour aller voir des potes, en fait, que le temps passe. J'ai envie que le temps passe vite pour arriver au combat. Parce que en fait, c'est l'attente qui est interminable. Et le pire, c'est quand on arrive dans le vestiaire, quand on arrive sur le lieu du combat, là, on sent vraiment l'atmosphère pesante. Et ça, il faut réussir à le gérer. Et une fois qu'on a géré, c'est bon. En fait, il faut kiffer le moment.
Combien de temps tu arrives au vestiaire avant le combat?
Là, à 22h, je vais arriver vers 19h, je pense. 19h, okay. Les gens, ouverture des portes vers 19h30, 20h. Moi, en fait, je veux voir personne avant. Je me mets dans ma loge, je suis dans ma loge et je vois personne. Ou des fois, j'observe un peu à travers les rideaux, je vois un peu les rideaux, mais pas grand monde me voit avant. J'aime pas faire les bains de foule. Je l'ai fait une fois en amateur, en fait, et là, je suis nerveux, par trop, et en fait, bah, j'ai perdu derrière parce que j'avais plus de force, en fait, on va dire. Donc maintenant, voilà, je me préserve. Je reste dans mon coin, ma compagne me fait les bandages bien 2 heures avant, pour que ça ait le temps de s'habituer à mes mains, et que je vois si je suis trop serré ou pas, s'il faut refaire, on a le temps. J'aime bien avoir le temps. Vraiment pas être stressé, être pris au dépourvu. J'aime bien gérer les choses, et des fois un peu trop, mais j'aime bien quand c'est carré, comme c'est comme moi je veux que ça se passe. En boxe, malheureusement, on choisit pas tout le temps. Des fois. Et voilà, après, on s'échauffe tranquillement, et puis on fait le combat, et puis après, selon victoire ou défaite, on va... Non, même défaite, en fait, on a un rituel depuis la boxe amateur, on va en boîte de nuit à côté, à la suite. Ah ouais. J'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse. Ouais, non, franchement, surtout s'il y a victoire, je pourrais rester éveillé jusqu'à midi s'il faut. Il y a une décharge de dopamine, on va dire, d'adrénaline plutôt, qui nous tient éveillés. En fait, on est en pleine forme. Ouais, non, je vais en boîte de nuit fêter ça, puisque la boîte de nuit est partenaire du club et partenaire du gala. C'est la suite discothèque qui est vraiment à deux pas du casino. Et pour le coup, on fait ça. Même pour mon coach qui est manager et qui organise le gala, il stresse. Je le vois à l'approche du gala, c'est plus le même. Il n'a plus le même regard ou quoi, il stresse, il est plus dans l'organisation. Donc voilà, donc, c'est aussi une décharge émotionnelle pour lui. On fait ça tous ensemble.
Il y a souvent cette relation entre les boxeurs et le milieu de la nuit. Hein. Vraiment, je veux dire, un cycliste qui gagne une étape du Tour de France, même si c'est la dernière étape, il ne va pas en boîte de nuit. Parce qu'il sait que demain il a un critérium et puis un autre et un autre. La boxe, on a l'impression qu'il y a une telle décharge de dopamine et d'adrénaline, comme tu dis, que vous avez besoin d'extérioriser ça et d'aller dans une boîte de nuit, par exemple. C'est le cas ?
Pas forcément, parce qu'en fait, moi, boîte de nuit, j'ai un rapport à la boîte de nuit qui est assez différent, parce que j'ai passé ma jeunesse de mes 16 ans à mes 24-25 ans en boîte de nuit. Donc même quand tu commençais la boxe au début, hein, comme je disais avant, j'étais beaucoup dans les soirées. Et j'étais beaucoup trop en boîte de nuit. Et donc, du coup, j'ai ce rapport-là. Et donc, j'aimerais y aller à ce moment-là, en fait. Mais ça ne me manque pas, sinon, en fait. J'ai pas besoin d'y aller. Je pourrais fêter si on allait en soirée avec des potes, chez un pote, on fait une soirée, ou même je rentre avec ma compagne. Et puis, on boit un verre ou deux, peu importe. Même sans boire, en fait, même sans ça, ce serait pareil. C'est que là, on est à côté, c'est un moment convivial, on est tous ensemble. Donc, j'ai pas ce rapport-là. Par contre, je rejoins sur le fait qu'on ait besoin de décharger, en fait, parce que. Comme je disais tout à l'heure, on a mis notre vie en jeu pendant tant de temps. Donc c'est un choix, hein. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix, hein, parce que j'ai pas besoin d'argent par rapport à la boxe, en tout cas, vu qu'on gagne tellement peu que heureusement. Et en fait, c'est un choix, mais je fais ce choix de mettre ma vie en danger pendant ce moment-là. Et quand j'en sors indemne, je suis content, en fait. J'ai besoin de décharger, le corps a tellement reçu, en fait, émotionnellement, pendant la préparation, pendant la perte de poids, pendant plein de choses, qu'on a besoin de décharger. Ouais.
Parce que je pensais que le combat suffirait de lui-même à décharger cette énergie, en fait. Tu te donnes à fond durant 6 fois 3 minutes, ça ne suffit pas. Il faut encore quelque chose après.
Ouais, c'est pas assez long 6 fois 3. Moi, je suis déjà prêt pour un 10 fois 3, pour un combat de championnat de France, par exemple, un combat national. Et peut-être qu'après un 10 fois 3, je verrai les choses différemment, je serai peut-être plus fatigué, ça dépend le combat s'il est éprouvant aussi. Là, j'ai encore jamais eu de combat vraiment éprouvant au point d'être exténué à la fin du combat. Pourquoi pas le 14 mars, hein, j'affronte un adversaire qui est bon, hein, qui a deux combats, deux victoires, une victoire par KO, donc zéro défaite et zéro nul. Et c'est un prospect dans la boxe, il a 21 ans, il a commencé jeune, il a 60 combats amateurs, champion régional en Occitanie, donc on a pris un bon. On n'a pas pris un mec des pays de l'Est qu'on veut juste faire la main au début de carrière. Là, on lance la carrière, le but c'est d'affronter des bons. Comme j'ai déjà affronté à Paris, comme j'ai déjà affronté à Toulouse, enfin voilà, je suis habitué. Donc peut-être qu'il y aura ce fameux sentiment d'être exténué à la fin du combat, on verra.
Alors, on va aborder un sujet qui est super important en boxe, c'est la pesée. La pesée, elle a lieu 24 heures avant le combat. Est-ce que durant la pesée, toi, tu peux faire sentir à ton adversaire que, de toute façon, c'est même pas la peine d'y penser, le vainqueur, ce sera toi. Et si oui, comment tu fais passer ce message ? Ouais, alors, tu fais partie de ces boxeurs qui, non, toi, tu es dans ta bulle et tu laisses faire, tu fais la pesée et rien ne te touche.
La pesée, ouais, c'est vraiment cérémonial comme moment. C'est là, en fait, où on va dire l'adversaire, on l'a jamais vu avant, en général. À part un amateur, on se connaît tous, voilà, on se connaît, on s'est déjà vu avant plusieurs fois. Là, en pro, en général, on ne s'est pas vu avant. À part s'il y a une conférence de presse comme à Paris, on s'était vu, et là, c'est là, le fameux cérémonial. Mais là, il n'y aura pas de. Enfin, il y aura une conférence de presse, mais l'adversaire ne sera pas là à la conférence de presse. Donc, pour rebondir là-dessus, ce sera la première fois que je verrai mon adversaire en face. Et le but, c'est de jauger un peu, voir le regard, voir les. Voir comment il se comporte physiquement, ouais, vraiment tout, en fait, comment il parle à son coach, comment il se tient, en fait, ça va loin dans. Il y a plein de détails physiques. Moi, je suis un grand observateur, j'aime beaucoup observer, analyser les gens, que ce soit hors box d'ailleurs, j'analyse tout le monde, et pour me faire une idée sur la personne avant de lui parler. Et donc là, on va jauger, se regarder, parce qu'après, on se regarde dans les yeux, on fait le fameux face-to-face. Et voilà, par contre, je ne suis pas quelqu'un qui va. Ouais, je vais pas parler trash-talker, comme on dit, un peu comme Cédric Doumbé, qui est connu pour ça dans le milieu des sports de combat. Mais lui, voilà, il arrive à gérer ça, il a réussi comme ça, tant mieux, il en faut, ça fait du spectacle, c'est aussi le divertissement, hein. On est là aussi pour divertir le public, mine de rien. Mais moi, non, je suis pas comme ça.
T'es pas dans la provoque ?
Non, je suis pas dans la provoque, ça me sert à rien, en fait. Et j'aime bien quand on me provoque. Par contre, à Toulouse, pour le coup, mon dernier combat en novembre, là, on m'avait provoqué, il m'avait dit des mots, et des petits mots d'oiseau, on va dire. Provoqué un peu en parlant devant son public et tout, qui était là à la pesée. J'ai rien dit, je regardais dans les yeux, mais dans ma tête, je pense qu'il a senti dans mes yeux que j'étais là pour le manger, que j'étais pas là pour venir prendre juste mon chèque et puis prendre des coups et puis le mettre en lumière lui. Non, il a vu, je pense, il a senti ma confiance, et j'ai vu en fait en faisant ça qu'il perdait confiance en parlant trop. Il y a une façon de parler. Il y en a qui vont parler, on va avoir peur, on va sentir la confiance. D'autres, ils vont tellement parler qu'on sent le manque de confiance. Et là, on peut jauger plein de choses dans une pesée. Ouais.
Alors, sans trahir de secret, moi je suis un boxeur aujourd'hui, on est en face à face. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire sortir de tes gonds en disant, oh purée, là il a touché une corde sensible, ça fait schnarr, quoi, vraiment?
Non, au niveau des paroles, non. Il peut même insulter qui veut, enfin, j'espère qu'il le fera pas, parce que quelqu'un, évidemment, en boxe, on apprend l'humilité. C'est pas le but d'insulter, on va pas jusque là.
Ouais, mais certains combattants sont prêts à tout.
Ouais, bien sûr. Ça pourrait changer s'il touche à mon intégrité physique. Là, si...
Pendant la pesée.
Ouais, pendant la pesée.
Si t'en mets une.
Ouais, s'il me touche, s'il me pousse ou quoi, il y aura pas de... Je vais me retenir ou quoi. Non, je vais répondre. Mais ça, en fait, ça marche dans la vie de tous les jours. Hein. Je vais jamais frapper personne. Enfin, à l'époque, en boîte de nuit, si, j'aimais bien la bagarre. Malheureusement, c'était comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, je suis très calme. Je vais pas frapper quelqu'un. Parce qu'en fait, je sais mon potentiel face à cette personne. Grande, petit, gros, grand. Voilà. Ce qui fasse du sport de combat ou pas, je sais que... Enfin, une fois qu'on me lâche, je suis un chien, je ne m'arrête plus. Et donc, je ne vais pas commencer à déclencher ça. Donc, je ne vais rien faire. Par contre, si quelqu'un touche à mon intégrité physique, et encore plus à l'intégrité physique de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir ou le potentiel de se défendre, alors si c'est quelqu'un de proche, bah, là, j'en parle même pas, là, je vais pouvoir sortir un peu de mes gonds. Ouais.
Mais du coup, te faire perdre une certaine lucidité.
Oui et non. Oui et non, parce que, si, ça m'est encore jamais arrivé en soi, donc en tout cas dans une pesée. J'espère que ça m'arrivera jamais pour le coup, parce que j'ai pas envie de savoir comment ça va se passer.
Tu livres un secret.
Ouais, voilà, il faudrait pas qu'ils aillent dans l'intégrité physique. Mais sauf si la personne en face va être prête à affronter le pire qui pourrait sortir de moi, on va dire. Mais non, je pense pas que ça arrivera en boxe, en tout cas pas à mon niveau là, pas. Non, je pense pas, et j'espère pas.
D'accord. On parlait de la pesée juste en préparant cette interview. Là, tu peux nous rappeler en quoi consiste la pesée, quel est ton régime et ce que tu fais les 24 dernières heures avant ton combat pour récupérer justement tous ces kilos perdus au préalable.
Donc avant la pesée, on a ce qu'on appelle la période du weight cutting. Ça dure environ un mois et demi, selon, ou même 2 semaines, selon les combattants, selon le poids qu'il y a à perdre aussi. Moi, je fais des assez grosses pertes de poids. Mais c'est voulu, c'est contrôlé en fait. Je monte de plusieurs catégories hors combat, prendre de la masse musculaire.
Tu peux aller jusqu'à combien?
Je n'ai pas envie d'en parler. Je préfère pas le dire pour rester un peu secret là-dedans. Mais je prends pas mal de poids et je monte de quelques catégories, on va dire, pour prendre de la masse musculaire avec préparateur physique, en lien avec aussi la nutritionniste. Mon coach, il n'est pas trop dans ça, lui. Il ne maîtrise pas trop ça. Il n'aime pas trop parce que je pense qu'il ne connaît pas aussi. Il n'y avait pas trop ça à l'époque. Pas aussi développé en tout cas, parce que maintenant on a des connaissances. On peut jouer là-dessus. Et moi, j'aime bien tout ce qui est stats, data et tout ça. Jouer vraiment sur la science, sur le corps humain. Et après, je descends en fait d'une certaine manière où j'enlève quelques aliments, j'enlève certains groupes d'aliments. J'enlève du sel pour éviter la rétention d'eau sur la fin. À la fin, je perds de l'eau, une certaine quantité d'eau. C'est importante, et puis le jour d'après je me pèse, et puis là après je me réhydrate d'abord en priorité. C'est l'hydratation, c'est vraiment le point clé, mais avec des timings à bien gérer. Chaque demi-heure compte, chaque minute compte après la pesée, et après on commence à se réalimenter pour faire une recharge et là reprendre plusieurs kilos pour revenir dans la catégorie, dans le poids de forme que l'on souhaite.
D'accord. J'aimerais qu'on mette en place une petite rubrique que j'ai inaugurée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle In Vivo. J'aimerais que tu fermes les yeux. Il ferme les yeux. J'aimerais que tu nous racontes ce que tu ressens aussi bien au niveau des odeurs, de la kinesthésie, du toucher, de l'ouïe, ce que tu ressens 30 secondes avant que le speaker t'appelle sur le ring.
Ok. Donc là, juste ce que je ressens.
Ouais, tes pulsations cardiaques, qu'est-ce que tu as dans la tête, est-ce que tu as la chair de poule, est-ce que tu transpires, bref, les odeurs, les sons, tout ce qui te vient à l'esprit.
À l'esprit, j'ai la pâteuse, j'ai vraiment la gorge sèche, j'avale beaucoup ma salive et je me répète des phrases en moi. Je me dis, c'est moi le meilleur, je me suis entraîné, je me rappelle mes entraînements un peu, je me rappelle quelques phrases qui me mettent en confiance, je me rappelle où j'ai visualisé, où étaient certaines personnes dans le public qui me sont chères, en tout cas ma famille par exemple. Je me rappelle plein de choses, de pourquoi je suis là et je pense à rien d'autre. Ouais, je pense qu'à la victoire.
Tu penses juste à ta performance là?
Ouais,
je pense juste à la... Ça joue ou pas?
Ça joue un peu, ouais, non. Parce que je sais que je me suis bien entraîné. Je pense, ouais, si je pense à la piste. je pense, la dernière séance piste où je me suis vraiment mis très très minable et où vraiment j'ai performé, j'ai fait des scores pas possibles et je me dis ouais, en fait j'ai un cardio, faut que je compte là-dessus, il pourra pas m'atteindre. Je pense à l'armée aussi, à beaucoup à l'armée, ouais.
Pourquoi l'armée ?
Bon, je pense aux difficultés, je pense aux entraînements durs. Entraînement dur qu'on a pu faire, cette partie-là où j'avais 18 ans, où on était dans le dur, on est parti en mission assez jeune, et puis tout ça. Et puis j'ai eu la chance en fait de rentrer en vie, entre guillemets. Donc voilà, je pense à tout ça. Ouais.
Tu penses à la tactique à appliquer face à ton adversaire ?
Non, j'y pense pas, là j'y pense plus. Là j'y pense plus, j'y pense quand je monte sur le ring et que y a le premier coup de gong qui va retentir.
D'accord, tu peux rouvrir les yeux. Parfait, merci beaucoup. Donc, en préparant toujours cette interview, je t'avais posé une question et je t'ai demandé de ne pas du tout me la poser, de la garder pour toi. Et cette question, c'était si tu avais le meilleur psychologue du sport en face de toi ou le meilleur préparateur mental, quelle serait la question que tu aimerais lui poser ?
Eh ben, j'aimerais lui poser la question à quel pourcentage on place... En fait, il y a deux questions dans une. À quel pourcentage on place le fait de croire en soi dans un résultat. Imaginons, on part sur une base donc de 0 à 100, quelle place occupe le fait de croire en soi dans ce résultat, malgré la préparation physique, la préparation mentale, enfin la préparation physique, on s'est bien entraîné, mais la place qu'occupe le fait de croire en soi.
Alors, le pourcentage, il est impossible à déterminer. C'est parce que ça dépend des individus. Si toi, tu es né dans une famille qui a été stable, que tu as été construit comme il faut, ton pourcentage, il sera vraiment très faible. Si tu es né dans une famille avec un petit peu des faiblesses, si ta construction a été un petit peu biaisée, qu'il a fallu mettre des étais, hein, comme avec la tour de Pise, là ton pourcentage sera beaucoup plus élevé. Mais on a toujours principe de dire ce que tu redoutes arrive beaucoup plus facilement que ce que tu ne redoutes pas. Okay. Et en psychologie, c'est vrai. C'est-à-dire que si en ce moment c'est les Jeux Olympiques, il y a des skieurs qui font toujours quatrième. Pourquoi ils font toujours quatrième ? Parce qu'ils ont terminé une fois quatrième, peut-être par coïncidence deux fois quatrième. Et du coup, après, ils se disent « Oh là là, j'espère que la prochaine fois, je ne terminerai pas quatrième. » Et la quatrième non plus, et la cinquième non plus, et la sixième non plus. Mais seulement, au lieu de penser à leur résultat en disant « Oh, ben, je peux terminer troisième, deuxième, voire premier », ils se disent « Oh là là, il ne faut surtout pas que je termine quatrième. » Du coup, ils se focalisent sur la quatrième place. Et inconsciemment, leur esprit se dit « Ben, moi, je vais faire quatrième. » Il ne me parle que de la quatrième place, donc pourquoi je chercherai à faire troisième ou deuxième ou premier ? Il ne va penser qu'à la quatrième place, donc à l'entraînement, il va s'entraîner pour être quatrième.
Ah, c'est
et c'est comme ça que ça,
ça
fonctionne, ouais. En fait. Ton cerveau, il va enregistrer le chiffre 4, 4, 4, 4, 4. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle jamais de 3, ni de 2, ni de 1. Donc je vais faire quatrième et finisse toujours quatrième. Donc lorsque l'on dit que les choses que tu redoutes arrivent toujours beaucoup plus vite, eh ben, c'est exactement ça.
Eh ben, super intéressant, ouais. Dans le fait de ne pas penser à se prendre un KO, par exemple, de ne pas penser à perdre, de ne pas penser à son cardio, de pas se dire est-ce que j'aurai le cardio. Encore une fois, ça m'est arrivé de me dire en combat, j'ai peur de ne pas avoir le cardio pour aller au bout. Donc je vais gérer plus, machin et tout. Et en fait, il se passe que bah, je suis vite, vite oxy, alors qu'en fait, j'ai le cardio. Et vu que j'ai peur de ne pas l'avoir, et ben, en fait, je respire mal et tout ça, alors qu'en fait, je l'ai largement.
Ouais. Il faut savoir aussi que ton cerveau ne comprend pas du tout la négation. C'est-à-dire que si tu lui dis j'ai peur de ne pas avoir le cardio, lui va comprendre j'ai pas le cardio.
Ouais.
Ça, c'est certain. Donc, si tu dis non, t'inquiète pas, t'as le cardio, tu t'es entraîné pour. Ça fait, tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu as l'entraînement pour. Donc, tu as le cardio. Si tu dis je ne sais pas si j'ai le cardio, il comprend que la négation et il va le transformer en positif. Tu n'as pas le cardio. Et donc, tu vas partir avec un handicap. Ça paraît tout simple. Mais
ouais,
c'est
mais
simple.
Une fois qu'on le maîtrise, qu'on le sait, en fait, ouais, c'est simple. Ouais. C'est simple, il faut savoir l'appliquer, et ouais, c'est clair.
En fait, il faut savoir aussi que ton cerveau a l'âge d'un enfant de 6 ans. Il faut toujours lui parler comme si tu avais dans ta tête un enfant de 6 ans. Le rassurer. Et un enfant de 6 ans, il vaut mieux éviter les négations. Si tu dis « Ah non, non, ne fais pas ça », il va le faire. Parce qu'encore une fois, le cerveau ne comprend pas la négation. Si tu dis « Ben écoute, fais-le, mais attention, peut-être que tu vas te brûler et tu sauras ce que c'est que la brûlure. » Parce qu'un enfant, il ne sait pas ce que c'est que la brûlure. Donc il va mettre ses mains, il va se brûler une fois, mais il ne le refera pas deux fois parce qu'il aura eu cette expérience. Ton cerveau, il faut toujours lui parler comme si c'était un enfant de 6 ans. Avant de monter sur un ring, si éventuellement tu as une appréhension, tu peux dire « Attends, calme-toi, c'est une situation qui n'apparaît pas souvent, peut-être 2-3 fois par an, donc tu n'y es pas encore habitué, mais ça va bien se passer, parce que je me suis entraîné pour ça, et tu étais avec moi, et ça s'est bien passé, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tout va bien se passer, calme-toi, laisse-moi faire. »
Okay.
Parce que ton cerveau est vraiment ton pire ennemi. Ouais. Il te voudra toujours du mal.
Ouais, il va vouloir se préserver, se mettre en mode survie, et puis voilà, s'économiser, il veut qu'on préserve le corps.
Ouais,
puis exactement. Dans le sport, le but c'est de mettre son corps en péril, entre guillemets, c'est compliqué.
Bah, surtout la partie... Alors toi, encore plus flagrant dans les sports de combat,
bien sûr.
Tu as ta partie reptilienne du cerveau qui te dit, oh là là, qui est la même partie des reptiliennes que tu avais au temps de Néandertal, lorsque ton cerveau te disait, reste dans la grotte, ne sors surtout pas parce que dehors, il y a un ours, il va te bouffer. Donc là, il va te dire, non, mais monte pas sur le ring, tu vas te faire démolir. Non. Et ta partie préfrontale, la partie réfléchie du cerveau, que tu dis, non, mais attends, c'est un sport, tu peux y aller, tu t'es entraîné, tout va bien se passer. Et ces deux parties sont en confrontation permanente. Donc il faut que le préfrontal prenne le dessus sur les reptiliens, en disant, tout va bien, tout va bien. Il faut toujours guerroyer avec ton cerveau, qui est ton pire ennemi, qui t'incitera à rester sur ton canapé lorsque tu n'as pas envie d'aller boxer, qui t'incitera à être éventuellement un peu malade lorsque tu n'as pas trop envie, tu diras, oh, ben, j'ai pas trop envie. Non, il faut lui mettre un coup de pied au cul, entre guillemets, et dire, non, j'y vais, et j'y vais.
C'est pour ça qu'on appelle ça, en tout cas dans l'armée, on disait mettre le cerveau sur off. Et je pense qu'on parlait de la partie reptilienne pour le coup du cerveau.
Ouais.
On parlait de le mettre sur off en fait et écouter l'autre partie qui nous dit vas-y fonce.
Ouais, alors il y a une contrepartie à ça, c'est qu'il ne faut pas vraiment dissocier, il ne faut vraiment surtout pas dissocier jamais le cerveau du corps. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de dire, et comme tu le dis, ouais, il faut déconnecter ou je mets sur off. Mais en fait, tous les messages que tu reçois de ton corps, il faut que ton cerveau aussi puisse l'analyser et dire attends, mon corps m'envoie que j'ai une douleur au coude par exemple, peut-être que je vais.
Ouais, la prendre en compte et voir pourquoi aussi. Ouais.
Voilà, exactement. Okay.
Pas faire bêtement mettre sur off, non. Il faut savoir en fait mettre sur on, je pense plutôt, mais écouter ce qu'il faut et rejeter ce qu'il ne faut pas.
Ben, juste plutôt que de le mettre sur off en disant oui, j'ai tenu compte de tes signaux, ok, maintenant, t'inquiète pas, je gère, t'inquiète pas, reste en éveil, ne te mets pas sur off parce que toi, tu vas être déclencheur d'alarme éventuelle, mais j'ai compris ce que tu voulais me dire, t'inquiète pas, je gère. Il faut en faire de ton pire ennemi, il faut en faire ton meilleur ami.
Ouais.
Et là c'est tout bon.
Ouais, intéressant.
J'ai répondu à tes questions.
Ouais, top, nickel.
Ok, super. Bah écoute Jimmy, je te remercie beaucoup parce que je pense que tu vas commencer ton entraînement d'ici peu de temps. Il y a des personnes qui vont t'arriver, peut-être ton manager, je sais pas.
Ouais, ou là coach. C'est un stage aujourd'hui. Là, il y a mon manager qui va arriver. Je sais pas si déjà. Non, pas encore. Non.
Il va arriver. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage et bonne chance pour ton combat par
la distance.
Et puis, à bientôt, j'espère.
À bientôt. Merci beaucoup.
Salut Jimmy.
Salut.
Corps et Cortex, le podcast de la préparation mentale.